France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Isabelle Autissier, navigatrice et écrivaine.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Acap se retourna. Oh Starbuck, quelle tendre douceur à la brise et quelle douceur à le ciel. C'est par un jour pareil, d'une sérénité toute semblable à celle-ci, aussi suave que j'ai frappé mon premier cachalot, gamin harponneur de 18 ans. 40 années, oui, ça fait 40 années de ça. 40 années incessantes de pêche à la baleine, 40 années de privation, de danger et d'orage, 40 années passées sur l'implacable océan. Quand je pense à la vie que j'ai menée, au désert de solitude qu'elle fut, cette existence fermée, retranchée, murée comme une citadelle qu'est celle d'un capitaine qui ne reçoit et n'admet nulle sympathie de la vie verdoyante qui l'environne. Ô lassitude, ô tristesse accablante, noir esclavage du commandement solitaire, quand je pense à tout cela. Comment, durant 40 années, je n'ai vécu que de nourriture sèche et salée, parfait symbole du dessèchement de mon âme. Et puis cette folie furieuse, cette rage frénétique, ce sang tumultueux et ce front bouillonnant pour déborder mille fois du vaisseau à la poursuite encolérée, écumante de la proie, plus un démon qu'un homme, le vieil Acab. Oui, oui, quand je pense à ce qu'ont été ces 40 années de folie, ah quel fou, quel vieux fou a été le vieil Acab, pourquoi ce perpétuel combat de la chasse ? Moby Dick, Herman Melville, 1851. Bonjour Isabelle Autissier.
Bonjour.
Dans la bande dessinée qui sort en cette rentrée chez Futuropolis et stocke une bouteille à la mer que vous signez avec la dessinatrice Zelba, il y est dit que vous êtes l'exact contraire du capitaine Acab. Même si vous aussi, ça fait plus de 40 ans maintenant que vous naviguez quand même. Hein.
Eh ben oui, 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 je commence à être d'un âge canonique. Oui, en écoutant ce texte, c'est exactement ce à quoi je pensais. Parce que d'abord, pour moi, la mer, c'est le bonheur. Lui, on sent que c'est la lutte, c'est la souffrance. Alors que pour moi, au contraire, c'est ma maison, c'est mon espace, c'est mon plaisir, c'est mes émerveillements, toujours, encore.
Jamais ça n'a été l'implacable océan, quand même. 40 ans de danger et d'orage, comme dit le capitaine Acab.
Non,
il n'y a pas des moments, quand même, pour vous, c'était un peu ça.
Il y a des moments, ça se passe un peu moins bien que ce qui est prévu, mais vous savez, une activité où il y a 5% d'emmerde et 95% de bonheur, c'est quand même une assez bonne activité. Et moi, ça a quand même été le cas, oui, bien sûr.
Sauf que les 5% d'emmerde, ils sont quand même très très sérieux. Hein. C'est quand on est en pleine mer, au milieu de la tempête, c'est pas rien, quoi.
Oui, c'est pas rien, mais plus on a d'expérience, plus on a anticipé, plus on a d'outils dans la tête, mieux ça se passe. Donc, évidemment, on préférerait pas avoir 50 ou 60 nœuds, mais quand on les a, on essaie de faire ce qu'il faut. Et en même temps, c'est merveilleusement beau. La mer en furie, c'est un spectacle incroyable. Même si c'est pas marrant, ça vaut le coup quand même.
Il n'y a pas de la peur quand même un peu ?
Il y a de l'inquiétude, il y a de la tension, il y a de l'incertitude. Mais après, il y a aussi de la confiance en soi et en son bateau. Il y a de la préparation, il y a de l'anticipation. Donc tout ça se mélange pour faire en sorte que... Et d'ailleurs, dans ces moments de tension, chaque seconde compte. Et dans la vie, c'est aussi bien que chaque seconde compte. C'est-à-dire, on est vraiment dans une concentration absolue de regarder vague après vague, nuage après nuage.
Est-ce que Moby Dick fait partie des grands récits maritimes qui ont pu vous donner envie de devenir navigatrice ou pas ?
Alors, donner envie de devenir navigatrice, non, parce que d'abord, c'est une histoire de mort. Acab, en dehors du fait qu'il est fasciné par cet animal, est aussi un personnage très noir. Mais bien sûr, ça a fait partie de mes lectures, parce que vous les avez cités, c'est une écriture déjà assez extraordinaire. Et bien sûr, j'ai lu ça avec délectation.
Une autre grande figure de l'océanographie, c'est Anita Conti, qui a été la première femme, paraît-il, à faire le métier d'océanographe. Voilà ce qu'elle disait au sujet de la mer, c'était en 1992.
Si je n'étais pas portée par la mer, de temps en temps, je serais morte. Donc, je ne sais pas si j'aime. Elle est effroyable. C'est sur la mer que j'ai certainement éprouvé mes plus horribles sensations de terreur. Parce que sur la terre ferme, vous mesurez l'obstacle. En mer, vous ne mesurez rien. Vous êtes lié au vent, lié à la mer, lié à la lumière, qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas définir ça.
Donc vous n'appréhendez pas la mer de la même manière qu'Anita Conti non plus, Isabelle Autissier?
Non plus, même si j'ai une grande dévotion pour cette femme qui a été d'un courage extraordinaire, effectivement, qui a été la première à une époque où il n'y avait pas de femme océanographe, où elle n'avait pas sa place sur les bateaux, et elle s'est imposée. Mmh. Après, ce que j'aime dans ce qu'elle dit, c'est ce côté où il faut s'abandonner aux éléments. On ne va pas lutter contre. On est forcément perdu si on essaye de lutter contre. Et donc cette façon de dire, ben voilà, l'environnement est ça, et je fais avec, et ça me plaît ou ça me plaît pas, hein, mmh. C'est un peu ce qu'elle dit, il y a des moments où ça vous plaît pas du tout, n'empêche que c'est ça la vérité, c'est ça la réalité.
J'aurais pu choisir pour l'introduction de cette émission un autre texte qui est un court poème de votre père, Jean-Georges Auguste Autissier. Ce texte figure d'ailleurs dans la bande dessinée qui paraît, mais je voulais vous demander plutôt de nous le lire, Isabelle Autissier, est-ce que vous acceptez?
Merci de penser à lui, parce que ce texte m'a beaucoup suivi, et il disait... J'ai épousé la mer cette nuit à l'heure où la côte s'éclaire. La mer ne m'a rien demandé, ni qui je suis, ni qui j'ai aimé. Elle a rempli ma bouche de son sel et mon esprit de son silence.
Votre père écrivait des poèmes?
Oui, il avait un côté très ingénieur. Hein, c'était un ingénieur, un architecte ingénieur. Mais il avait aussi, et il m'a transmis ça, je pense, à travers la mer, beaucoup de sensibilité et presque cette sensualité que peut avoir la mer et l'océan, que lui traduisait en poème.
Pourquoi ce poème vous touche à ce point? Parce que je vous vois quasiment les larmes aux yeux en le récitant.
Peut-être d'abord parce que ça me rappelle mon papa que j'aimais, et tous ces moments de partage qu'on a eu à bord, qu'on a eu en mer. Et puis, moi j'ai construit ma relation à la mer, grâce à mes parents, toute petite fille, avec cette attirance... qui vient du fond du ventre et qui vient du fond du cœur, et quelque chose d'effectivement très sensuel, très... Moi, d'abord, la mer, c'était des odeurs, des mouvements, des éblouissements, et je trouve que la poésie rend ça, vraiment, et ce texte rend ça. Et puis, oui, ça me renvoie au premier moment où, petite fille, sur le banc d'un dériveur, tout d'un coup, je vois l'eau qui brille à côté du bateau, et j'ai le sentiment, assez vite, que ma vie sera là.
Et ce poème, il vous a toujours accompagné, en fait?
Oui, 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 je le cite régulièrement. Bon, il en a écrit d'autres, il avait commis un petit recueil. Oui. Mais voilà, celui-là me parle énormément.
Qu'est-ce qui vous a transmis, votre père?
Beaucoup de choses. D'abord, cet amour et cette connaissance de la mer. Donc, il y avait les deux aspects que j'ai toujours gardé, c'est ce côté émotion. Et puis, ce côté connaissance. Lui, c'était un ingénieur. Donc, l'hiver, quand on revenait à Paris, si on avait un grand tableau noir à la maison, et on faisait des calculs, et on apprenait les marées, et on faisait les règles, etc. Oui. Donc, il m'a transmis ces deux choses-là. Il m'a aussi transmis une très grande confiance en moi, en fait, qui m'a permis de faire beaucoup de choses. Transmis ce sentiment que j'étais un être humain, et que... tout était possible à condition de bosser, à condition de me donner à ces activités.
Concrètement, comment ça s'est transmis, cette confiance, alors?
Par exemple, quand j'avais 11-12 ans, il a considéré que j'avais assez appris avec lui sur ce petit dériveur, et je partais toute seule. Je me tapais de pousser toute seule le bateau à l'eau, et c'était dur. Et puis après, je partais, et je revenais le soir, des fois à la tombée de la nuit, et il se posait pas de questions.
Donc vous partiez seule en mer à 12 ans?
Oui.
En Bretagne, donc, en l'occurrence.
En Bretagne, voilà. Alors, c'était à Lancieux, qui est une grande baie qui est un petit peu fermée par des îles. Donc, tacitement, il ne fallait pas que j'aille au-delà des îles. Bon, petites entorses, mais pas trop. Et jamais, je crois que jamais, ils ont été inquiets. Parce que, voilà, ils avaient jugé que c'est pas parce que j'avais 12 ans que c'était dangereux. J'étais capable de naviguer. Et ça, c'est très fort quand on est un enfant.
Et cette confiance en vous, vous ne l'avez jamais perdue?
Je crois qu'elle m'a beaucoup accompagnée, qu'elle m'a beaucoup aidée à faire tout ce que j'ai eu envie de faire. Et puis, ils n'ont jamais posé d'interdit. Alors, évidemment, dans une famille, il y a des interdits. Quand on élève des enfants, il y a des interdits. Mais j'ai voulu faire des études supérieures, je les ai faites. Après, j'ai voulu me construire un bateau, je me suis construit. Après, j'ai voulu partir naviguer, je suis partie. Après, j'ai voulu faire le tour du monde, je l'ai fait. Et ils ont toujours accompagné ça. Je l'aurais peut-être fait... sans leur accord, mais c'était tellement plus facile de se sentir accompagné.
Et cette autonomie, donc si jeune, ça conditionne tout le reste, évidemment, de votre existence, et en particulier pour affronter la mer en solitaire, incontestablement en tout cas.
Incontestablement, parce que J'ai pas de doute. Alors, en fait, ça s'est quand même passé progressivement. Évidemment, on commence pas par faire le tour du monde en solitaire.
Ouais, ouais.
Mais ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait d'abord du bateau avec eux, après toute seule sur un petit bateau, après du bateau un peu plus grand, après je me suis construit mon propre bateau, j'ai traversé l'Atlantique avec un équipage, mais je suis revenue toute seule. Donc, à chaque fois, il y a eu des marches qui ont fait que mon horizon s'élargissait, au propre comme au figuré. Et donc, à chaque fois, je me sentais en capacité d'aller sur la marche d'après. Donc finalement, c'est sûr que le tour du monde, ça a été quand même un gros morceau, mais bon, j'avais quand même franchi d'autres étapes, je me disais, c'est bon, je suis mûr.
Vous faites des études scientifiques liées à la mer, à la pêche en particulier, vous étudiez, je crois, les gros crustacés, et donc ce premier bateau que vous construisez à La Rochelle, il s'appelle Parole, ça prend combien de temps de construire un bateau soi-même ?
Alors moi, ça m'a pris 3 ans parce que je travaillais en même temps, on était 2 sur, sur le coup, pour travailler sur ce bateau, mais quand même, c'était le soir, c'était le week-end, c'était les vacances, donc ça a pris un peu de temps, mais en même temps, c'était une magnifique expérience. Moi, j'ai toujours adoré bricoler, donc là, c'était quand même du bricolage un peu XL, c'était soudé, c'était faire un tas de choses, et j'ai adoré ce moment de construction, et d'ailleurs, Parole, le nom du bateau est un peu lié à ça, c'est un moment où j'ai énormément échangé avec tout le monde, on était à l'époque à La Rochelle, il y avait toute une bande de gens, c'était très très riche.
Et il symbolise quoi alors du coup, ce Parole ?
Ça a été mes première vraie navigation de capitaine, puisque quand je pars de La Rochelle, j'arrête de travailler, je décide de partir au moins 1 an, et je pars de La Rochelle pour la grande aventure quand même, pour traverser l'Atlantique. Et donc ça, c'est quand même déjà un premier aboutissement. Moi, j'en rêve depuis que je suis petite fille de traverser l'Atlantique.
La compétition, vous en rêvez ou c'est juste traverser l'Atlantique ?
Alors ça, c'est juste traverser l'Atlantique. La compétition viendra peu de temps après, quand je rentre de ce voyage au bout d'un an, avec plein de bonheur dans la tête, et je me dis, j'ai envie de repartir. Et là, je me dis, mais peut-être je pourrais essayer autre chose, repartir autrement, et je me dis au fond la course, parce que j'ai des copains qui en font, je me dis je vais apprendre plein d'autres choses en faisant de la course, et c'est vrai d'ailleurs, et donc je dis la prochaine fois que je repars, traverser l'Atlantique, ce sera en course.
Vous avez l'esprit de compétition, Isabelle Letissier, ou pas ?
Alors, je sais pas, en tout cas ça fait pas partie de ce que m'a légué ma famille, je faisais pas de régate quand j'étais petite fille, mais je me suis pris au jeu, et je me suis pris au jeu d'essayer de faire le mieux possible, et faire le mieux possible en course, ça veut dire à un moment donné d'être devant les autres, mais c'est au fond, c'est presque le chemin qui est plus important. Évidemment, le résultat, c'est la cerise sur le gâteau. On a envie de gagner. Mais tout ce chemin de préparer un bateau, de le concevoir, de s'entraîner, de courir, ça, c'est ça la vraie expérience.
En 91, donc à l'âge de 34 ans, vous êtes la première femme à boucler un tour du monde en solitaire. On écoute cette archive de FR3 Poitou-Charentes en mai 91.
Il est 14h à Newport aux USA, soit 20h de Paris, lorsque le bateau d'Isabelle Autissier franchit la ligne d'arrivée lundi dernier. Après 139 jours de course, 4h48, elle est la première femme à avoir réussi à boucler le tour du monde en solitaire. Ce n'est pas rien. Mais être la première femme au Bock Challenge, c'était le rêve d'enfance d'Isabelle. Au bout du compte, pour cette course reconnue comme une des plus difficiles, elle a surmonté les 50 000 km avec calme et le sourire aux lèvres. Un jour après son arrivée, elle confiait déjà qu'elle avait des projets pour l'avenir.
1991, à votre arrivée donc à Newport, en l'occurrence Isabelle Autissier. Quel souvenir a posteriori vous gardez de cet exploit ?
Alors, moi j'ai un souvenir magnifique, c'est le matin de l'arrivée, je vois la côte américaine que j'avais perdue depuis 134 jours. Donc, et moi, c'est vrai que mon rêve était de faire le tour du monde, et tout d'un coup, cette vision de la côte américaine, je me dis, ça y est. Je m'étais promis, quand j'avais 12 ans, je ferais le tour du monde, j'en ai 34, je le fais. C'est bon. Et ça, personne ne me le prendra jamais. Et ça, c'est une espèce de socle sur lequel j'ai eu l'impression qu'après, au fond, je pouvais tout faire. J'avais tenu ma promesse de petite fille. Et je souhaite à tout le monde dans la vie de faire ça, parce que c'est extrêmement libérateur, en fait.
Et c'est un moment vraiment de bonheur. Vous êtes très heureuse à ce moment-là ?
Ah oui, oui, c'est même plus que ça. Moi, j'appelle ça faire du tapis volant, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'ambiance. Bon, évidemment, en plus, on retrouve ses proches, tout le monde, etc. Il y a une grosse ambiance de fête, mais pour un marin, l'arrivée à terre, c'est déjà un grand moment de bonheur. On a fait le job, on a amené son bateau quelque part. Et là, oui, c'était... on se rend même plus compte et on est sur un petit nuage.
Isabelle Autissier, vous nous emmenez sur votre tapis volant cet après-midi à l'occasion de la parution de cette bande dessinée, Une bouteille à la mer. On en parle dans un instant. Vous êtes notre invité au carré.
France Inter. La Terre au carré.
Ce dossier m'avait plu parce que le solitaire, c'est quelque chose de symbolique. Une femme en solitaire, c'est original. Et puis, elle a une façon d'être, une façon de parler qui donne confiance. On se dit qu'avec cette fille-là, on peut gagner. Et je crois qu'il faut que les droits des femmes, ça gagne. C'est vraiment très symbolique de ce qu'elle va gagner pour les autres femmes auprès des navigateurs. Parce qu'il y a une place à gagner qui n'est pas tout à fait acquise. Les femmes et le sport, on peut encore en parler quelque temps.
La voix de Michel André, alors secrétaire d'État des droits des femmes en 1990, Isabelle Autissier, c'était sur FR3, elle parle donc de vous dans cet extrait. Vous qui publiez Une bouteille à la mer, bande dessinée avec la dessinatrice Zelba, c'est aux éditions Futuropolis et Stock. Donc vous donnez confiance également à ceux qui sont avec vous en mer, ça c'est pas mal de se sentir bien accompagné.
Tant mieux, j'essaye. En tout cas, aujourd'hui, où je navigue beaucoup en équipage, ça fait partie de mon job, entre guillemets, de skipper, de que mon équipage soit en confiance.
Est-ce que c'est facile de s'imposer quand on est féministe dans cet univers qui est longtemps resté exclusivement masculin, celui de la navigation ?
Alors, dire, c'est pas la question que c'est facile. Moi, j'ai eu quand même cette chance de jamais me penser illégitime sur le sujet. Parce que peut-être, dès la première course que je fais, qui est la mini-transat, donc une transat sur des petits bateaux, je me classe tout de suite, je gagne la première étape, je finis troisième, et donc, en termes sportifs...
Ça en impose
tout
de suite.
Voilà, je suis acceptée dans la communauté des marins. Et après, parce que au fond, moi je suis très sensible et fière au fait que peut-être que j'ai un peu aidé d'autres femmes à suivre leur propre chemin, parce qu'on a tous besoin, toutes surtout besoin d'encouragement, voilà. Au départ, quand je décide par exemple de faire un tour en solitaire, c'est pour moi, c'est parce que moi j'ai envie de le faire. Je ne le fais pas d'une manière militante, on va dire. Mm-hmm. Mais sauf que ça a des répercussions quand même.
Mais la présence des femmes dans la course à la voile, ça reste un sujet encore aujourd'hui ou pas ?
Alors, beaucoup moins, parce que d'abord, il y a de plus en plus de jeunes femmes. Alors, c'est vrai qu'on est un peu obligé d'en passer par les obligations, puisqu'il y a un certain nombre de courses en double, par exemple, où maintenant, on oblige à avoir un homme, une femme. Mmh. Donc, ça a aussi permis, justement, de passer par-dessus le fait que c'est plus facile pour un garçon de se faire embaucher dans un équipage. Et donc, les talents sont plus reconnus chez les garçons que chez les filles. Donc, à un moment donné, d'obliger à avoir des équipages mixtes, ça permet à des filles de rentrer dans la carrière et de montrer ce qu'elles savent faire.
Ça représente quoi la navigation aujourd'hui dans votre vie, Isabelle Autissier ? Ça prend quelle place ?
Ça en prend quand même pas mal. Ça prend 2 mois et demi l'été, qui est la première chose que je mets à mon agenda et qui n'est absolument pas négociable.
Donc, de juin à septembre, vous êtes injoignable.
Voilà.
Là, vous rentrez d'où, par exemple ?
Là, je rentre du Svalbard, hein, le Spitsberg, donc au nord complètement de l'Europe, en Arctique, parce que j'aime bien naviguer dans le froid et dans les glaces, quand il y en a encore.
Ouais.
Et donc, voilà. Et donc, là, c'est vraiment ma respiration personnelle. Et c'est le moment où, parce que c'est pas toujours facile à terre et que c'est un peu compliqué. Et là, tout d'un coup, je sais pourquoi je me bats. Et surtout, j'ai tous ces bonheurs que j'ai de la mer et de la navigation.
En solitaire ou pas ?
Non, plus maintenant. Au contraire, j'aime bien avoir du monde à bord. Hein, on peut être 6 sur le bateau que j'ai actuellement. Et j'aime bien emmener à la fois des bons marins pour me seconder, mais aussi des gens. Là, cet été, il y avait, sur la première partie, il y avait 2 jeunes femmes qui s'intéressent au plancton. Donc, on a essayé de pêcher le plancton. Et puis, sur la deuxième partie, il y avait un réalisateur, caméraman. Donc, j'aime bien partager aussi le bateau et le voyage avec des gens qui aussi m'apprennent des choses.
Bon, donc 2 mois l'été et le reste du temps ?
Et le reste du temps, beaucoup d'occupations diverses, de l'écriture quand même, pas mal, un certain nombre de responsabilités, je suis présidente des Terres australes et antarctiques françaises, je viens d'accepter une responsabilité à l'Office français pour la biodiversité, je fais un petit peu de scène, voilà, je fais des choses extrêmement éclectiques, c'est ça qui m'amuse, c'est qu'il n'y a jamais 2 jours pareils.
Et à partir de quand on peut dire que vous êtes entrée en action en tant que militante écologiste hein ?
Alors, la conscience que j'en ai eue, elle a été assez tôt. Quand je sors de mes études d'ingénieur halieute, je commence à travailler un peu pour la recherche et pour la pêche. Et là, ça me frappe quand même qu'on marche sur la tête, quoi. Et je vois bien ce gap déjà extrêmement profond entre nous, les scientifiques qui suivons les populations, qui disons attention, etc. Et puis, de l'autre côté, à la fois les pêcheurs et les pouvoirs publics qui disent « Non mais attendez, vous n'allez pas nous casser les pieds, nous, on a un job à faire. » Et ça me marque dès le début. Et puis après, je vais vraiment, on va dire, décider de passer du temps quand je raccroche en 2000 avec la course au large, que je repars un peu d'une feuille blanche au fond, et je me dis dans cette feuille blanche de ma vie, là je veux mettre les questions environnementales. Ça se fait de plus en plus pressant, hein. Le GIEC commence à dire des choses dans les années 2000, et je me dis, moi, je veux en être, quoi.
C'est aussi l'idée de cette bouteille à la mer, finalement, hein, cette bande dessinée. Il faut nous raconter un peu la genèse de ce projet, avec la dessinatrice Zelba, qui a fait un boulot. Alors, il faut quand même la saluer, parce que c'est très dense, hein, ce travail. Et d'abord, première question, est-ce que des bouteilles à la mer, vous en avez beaucoup envoyé en tant que navigatrice ou pas?
Alors, pour de vrai, oui, ça m'est arrivé.
Et ça a donné ou pas?
Aucune n'a été récupérée. Il faut dire que quand on les lance au Cap Horn, on a assez peu de chance. Mais, non, évidemment, là, c'est une bouteille à la mer symbolique. C'est un peu l'histoire aussi qui est mise en scène sur ma rencontre avec Zelba. En fait, ça vient de cette envie de parler de l'océan, à la fois de ses beautés, des problèmes, mais aussi des solutions. Autrement, enfin, j'avais un peu réfléchi et mon éditeur Stock m'avait dit « Mais pourquoi t'écris pas un bouquin ?» Et je me suis dit « Mais au fond, des bouquins, il y en a déjà plein. » Ouais. Sur ces sujets-là, et ils risquent d'être lus que par des gens qui sont déjà convaincus, et moi j'ai envie de parler à tout le monde. Et c'est là qu'est née l'idée de se dire, sur un média comme la bande dessinée, qui est un média qui est partagé par tout le monde, les grands, les petits, c'est peut-être aussi un moyen d'abord de penser les choses autrement, de les dire autrement, et de toucher d'autres gens. Mmh. Et après, il y a eu cette rencontre, donc en cherchant un peu à droite à gauche, d'abord sur le travail de Zelba que j'ai beaucoup apprécié, les autres bandes dessinées qu'elle avait faites avant. Et puis, dès qu'on s'est vus, je me souviens, on s'est rencontrés à La Rochelle, chez moi, on a dîné ensemble, et là, ça a tout de suite accroché, quoi. On s'est amusés, voilà, il y avait une curiosité réciproque, au fond.
Et donc, vous l'emmenez dans vos pérégrinations écologistes, aussi?
Oui, voilà, l'idée, c'était d'aller sur un certain nombre de sujets, on peut parler de tout sur l'océan, mais de serrer des sujets, et d'aller à la rencontre d'acteurs de terrain sur à chaque fois une question. Et donc, à partir de ces rencontres, et ça, c'est tout le travail de Zelba qu'elle a fait incroyablement bien, c'est de rendre ça compréhensible, de faire en sorte que l'image raconte quelque chose et que le texte est en complément, et puis de faire en sorte que ce soit aussi marrant, que ça se lise facilement, et que ce soit pas rébarbatif.
Parce que même pour elle, il faut digérer toute la matière scientifique, parce que c'est dense, il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage, et elle fait ça avec brio, vraiment.
Ah, complètement. D'ailleurs, au début, elle m'a dit, il faut que tu m'envoies de l'info, et alors j'ai commencé à lui envoyer 50 pages de trucs, elle m'a dit, Après, ça s'est fait petit à petit, effectivement, à chaque fois, autour des entretiens qu'on préparait ensemble, qu'on menait ensemble, où finalement, il y avait à la fois mon questionnement à moi, plus militant et plus scientifique, et puis son questionnement à elle, qui était hyper important, parce que c'est le questionnement de quelqu'un qui se demande ce qu'il peut faire, qui ne comprend pas très bien les problèmes, qui se dit, voilà, donc qui est un peu, j'allais dire, questionnement de monsieur et madame tout le monde, quoi. Et c'était vraiment important qu'on soit ensemble.
Les romans comme la bande dessinée, donc, aujourd'hui, c'est une bonne manière de sensibiliser autrement à la question écologique aussi pour vous ?
Ah, moi, je pense que c'est indispensable. Après, oui, on peut faire des manifestations, des prises de parole, et tout ce qu'on veut, mais au fond, il faut arriver à ce que les choses soient touchantes, à ce qu'elles touchent les gens. Et elles touchent les gens. Par exemple, sur les beautés, c'est elle qui a inventé dans ce livre qu'il y a des pages qu'elle a appelées les injections de beauté. C'est-à-dire que, bon, de temps en temps, on en a un peu marre d'entendre des chiffres un peu difficiles, et tout d'un coup, il y a une double page où je raconte un beau moment de mer. Et tout d'un coup, c'est une respiration, et tout d'un coup, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce qu'on a envie de défendre ça, et qu'est-ce qu'on a envie que tout le monde puisse un jour continuer à voir ça. Donc, je pense que c'était ça aussi l'idée, c'était d'entraîner tout le monde. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de choses un peu noires, mais il y a aussi tellement de bonheur, quoi.
Ouais. Enfin, la question maritime, la question des océans aujourd'hui, c'est un vrai sujet d'écologie quand même, hein. C'est pas un petit truc, hein.
Ah, c'est pas un petit truc. C'est quand même l'acteur numéro un du climat, l'océan. On sait que de ce point de vue-là, ça se passe pas bien. L'océan se réchauffe, que ça a des conséquences sur la vie marine, qui a des conséquences sur le plancton et la base des chaînes alimentaires. Enfin bon, voilà, qu'il y a de la surpêche, qu'il y a de la pollution. On voit bien qu'aujourd'hui, l'océan qui nous fait vivre, nous ne vivrons pas sans un océan vivant, est très très en danger et attaqué. Donc, vous savez, pendant longtemps, on a pensé que l'océan c'est tellement grand qu'au fond, nous les petits humains, on n'a pas de prise. Et puis, on s'aperçoit que de plus en plus, c'est pas vrai. La pollution plastique, elle est dans le monde entier. Moi, quand je vais au nord du Spitzberg, par 80 Nord, c'est gavé de plastique. Donc, on voit bien que finalement, notre planète est toute petite, notre océan est tout petit, nous on est quand même assez puissant. Et si cette puissance s'exprime de manière négative, ben, les conséquences ne sont pas bonnes.
Ah oui, vous dites, si l'océan meurt, nous mourrons aussi.
Ah ben, bien sûr.
La formule est un peu violente. Mais
Elle est violente, mais elle est parfaitement juste. Une respiration sur deux que vous prenez vient du plancton. Le plancton végétal.
Donc l'oxygène
que nous respirons vient pour moitié du plancton marin. Donc si un jour il faut respirer une fois sur deux, ça va commencer à se compliquer. Ouais.
La compétition sportive vous a aussi servi dans votre engagement écologiste? Est-ce qu'il faut la même obstination au fond? Est-ce que c'est la même énergie que vous déployez ou pas?
Alors,
parce qu'il faut en avoir de l'énergie pour militer aujourd'hui. Hein.
Oui.
Il y a des vents contraires, très forts.
Oui, il y a des vents contraires, mais ça, il ne faut pas trop s'arrêter à ça. Je pense que c'est un peu, j'allais dire mon caractère ou ma marque de fabrique, je ne sais pas quoi. Je suis un peu têtu quand même. Hein. Et en tout cas, j'aime bien aller au bout des choses. Et à un moment donné, si quelque chose m'importe, me dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Voilà, moi, petit être humain, j'ai essayé de mettre en œuvre tout ce que je savais mettre en œuvre. Et bon, après, je ne suis pas garante du résultat. Mais au moins, par rapport à moi-même, c'est ça qui me donne de la paix intérieure. Et dans ce combat environnemental qui, vous l'avez dit, est très compliqué aujourd'hui, je me dis, si je baissais les bras maintenant, je ne pourrais plus me regarder dans la glace et je tomberais dans la déprime. Quoi.
Une bouteille à la mer, c'est cette bande dessinée qui paraît. Futuropolis et Stock, Isabelle Autissier, vous êtes notre invitée.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
The fifth session is adjourned to be resumed at a later date.
Après 10 jours de négociations et au bout de la nuit, le président met fin aux discussions. C'est un échec. Le dernier texte présenté par la présidence a été rejeté par une large majorité de pays, le jugeant trop peu ambitieux. Il ne fixait aucune limite à la production de plastique, ce qui était pourtant l'une des demandes principales des pays les plus ambitieux, dont la Belgique.
Malgré 120 pays qui sont réunis derrière l'Europe, dont la Chine, l'Inde, les pays producteurs de pétrole, les pays arabes ont refusé un accord, préférant sans doute le bénéfice des deniers du pétrole plutôt que de sauver la santé de la planète et des gens.
L'homme que nous venons d'entendre s'appelle Jean-Luc Cruc, c'est le ministre fédéral belge du climat et de la transition environnementale. Extrait du journal de la RTBF le 15 août dernier. Isabelle Autissier, vous qui êtes notre invitée avec une bouteille à la mer, cette bande dessinée dans laquelle vous parlez aussi beaucoup de plastique. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet échec de Genève donc à la mi-août, ces négociations qui devaient donc arracher un traité sur le plastique, qui ont échoué, 184 États réunis donc aux Nations Unies, et qui n'arrive pas du tout à faire face à cet enjeu capital pourtant.
Ben oui, alors beaucoup de tristesse et beaucoup de gâchis. Dieu sait que moi et le WWF que je représente, on a beaucoup travaillé pour qu'il y ait ces discussions au niveau international. Et je comprends le point de vue qui est de dire si c'était pour signer un traité dans lequel on ne disait pas à un moment donné qu'il fallait diminuer notre production et notre consommation, il valait mieux pas signer. Parce que c'est ça le sujet.
Ouais.
Aujourd'hui, on continue à avoir une croissance exponentielle de production de plastique. Et on sait que voilà, c'est une benne à ordures à la minute qui finit dans l'océan. Donc, il n'y aura pas d'autre solution que de diminuer drastiquement notre consommation. Le plus tôt sera le mieux. C'est vrai que ça fait déjà au moins 2 ans ou 3 ans qu'on discute de ça et qu'il y a des blocages. Ils sont en partie depuis 2 ou 3 ans géopolitiques, mais ils sont aussi quand même beaucoup industriels.
Industriels beaucoup quand même.
De la part de producteurs, de gens qui fabriquent ces plastiques. Mais enfin, ces gens-là, ils ont peut-être aussi des gosses. Et s'ils analysent les cheveux ou le sang ou l'urine de leur gamin, ils vont trouver plein de résidus de plastique. Alors, comment est-ce qu'il faut arriver à parler à ces gens-là?
La résistance est féroce donc aujourd'hui.
Oui, la résistance est féroce. Sur d'autres sujets aussi, on voit revenir des choses qu'on croyait définitivement réglées.
À quoi vous pensez ?
Je pense au climat, par exemple. Je pense à des choses comme ça. On a parlé ici, en France, beaucoup des pesticides. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à dire que c'est pas un problème de santé publique, que ça coûte pas extrêmement cher à la santé des gens, donc c'est de la souffrance humaine, que ça coûte pas extrêmement cher au pays qui doit soigner ces gens-là, quand ils ont des cancers et autres. Enfin, oui, c'est vrai que, bon, des fois, on a un peu envie de se dire, c'est un peu lourd. Mais bon, Le combat ne finira jamais, donc il faut le poursuivre.
Selon un rapport du Forum économique mondial et de la Fondation Ellen MacArthur, le poids du plastique dépassera celui des poissons dans l'océan d'ici 2050. C'est totalement effrayant de se dire ça, non ?
Oui, c'est effrayant, on a même du mal à le croire et à le comprendre, mais prenez une poignée de sable quand vous allez en vacances, regardez attentivement, dans n'importe quelle poignée de sable de n'importe quelle plage du monde, vous allez trouver des milliers de particules de plastique, donc il y a déjà... maintenant, on continue et j'allais dire presque on accélère dans le mauvais sens.
À l'instant, donc, on entendait le ministre fédéral belge du climat et de la transition environnementale. Est-ce que c'est un poste qu'on vous a proposé en France, Isabelle Autissier ?
Non, mais de toute façon, ce serait pas du tout...
vous répondez pas à mes questions. Donc d'abord, première question, est-ce que c'est un poste qu'on vous a proposé ?
Non, mais peu importe. C'est pas mon ADN. Moi, je suis quelqu'un de la société civile. Je crois que c'est là que je sais faire un peu. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les politiques avec qui je travaille, où je peux travailler, où je peux discuter, des fois m'engueuler même. Mais je vois bien que le métier, entre guillemets, de politique, c'est de travailler les parlementaires, c'est d'avoir un parti, peut-être.
Ça, vous ne l'avez pas.
Tout ça, je ne l'ai pas et je serais très mauvaise.
Donc, vous seriez très fragile, au fond, à un tel poste ?
Oui, et je pense que je ne gagnerais pas d'arbitrage, je serais pas, j'aurais pas le fil conducteur pour faire bien les choses.
Vous faites partie de l'OFB, justement, vous le disiez tout à l'heure. Hein, vous avez une implication, vous acceptez un poste.
Oui, d'un conseil d'orientation qui est pas du tout le conseil d'administration, mais qui est un groupement de gens. On va commencer à travailler seulement là, à partir de la rentrée, où on va essayer de réfléchir un peu sur le long terme. Quels sont les grands sujets sur les questions d'environnement, de rapport à la nature, comment ça s'insère dans la société et comment on peut proposer ou aider le conseil d'administration dans son travail pour gérer l'OFB, les grandes missions de l'OFB, pour que ce soit le plus fluide possible.
Mais c'est une façon pour vous de soutenir aussi cette institution qui est très mal menée, on le sait, avec certains qui souhaiteraient voir même sa disparition, l'Office français pour la biodiversité.
Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'Office français pour la biodiversité disparaisse?
Certains émettent cette idée.
Je sais, j'ai bien vu ça, mais quand ça gère tous les parcs terrestres et marins, quand ça gère quand même la police de l'environnement, et la police de l'environnement, malgré tout, c'est quelque chose qui nous défend. On pourrait pas imaginer, est-ce qu'on dirait on va supprimer la police? Ben non, on va pas supprimer la police. Ben, la police de l'environnement, on en a besoin, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des mauvaises pratiques, qui outrepassent la loi, et ces gens-là, il faut les rappeler à l'ordre. Donc oui, on a absolument besoin de ça, et moi j'ai trouvé ça vraiment assez presque dramatique qu'on puisse envisager qu'on n'aurait pas besoin, en France, d'un organisme qui s'occupe de la nature, qui protège la nature, qui restaure la nature, au bénéfice de tous les citoyens français.
Votre implication auprès de l'OFB, c'est une façon de soutenir aussi précisément cette institution ?
Bien sûr, c'est une façon de reconnaître le travail qui est fait et de dire que ce travail est indispensable. Oui, bien sûr.
Vous parliez des parcs nationaux. Dans un contexte d'austérité, un rapport sénatorial publié en juillet recommande la fusion de certains établissements publics, dont les parcs nationaux. Là aussi, c'est une menace.
Oui, et comme si ça allait régler les problèmes. Comme si, tout d'un coup, on allait faire des espèces d'économies miracles sur le dos des organismes. On voit déjà que les parcs nationaux, il y en a beaucoup qui sont un peu à l'os, quand même, pour faire vivre ces parcs. Et souvent, d'ailleurs, on en arrive à des parcs qui sont plus ou moins des parcs de papier, parce que on n'a pas de moyens suffisants pour suivre, protéger, pour faire de la pédagogie, Donc dire que tout d'un coup, soi-disant, par des fusions, on va régler le problème, c'est évidemment pas des solutions.
Est-ce que votre vie d'écrivaine, de romancière, d'essayiste aussi, parfois, Isabelle Autissier, vous rend heureuse ?
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à la navigation, par exemple ?
C'est complètement différent. D'abord, moi, j'ai toujours été sensible à l'écriture, à la parole, à la voix. C'est mon moyen d'expression, beaucoup plus que l'image. Donc, écrire, c'est un plaisir. Arriver à traduire par des mots qui fasse une jolie musique, parce que j'aime bien la musique des mots, et qui puisse transmettre des émotions, des idées, des paysages, des choses que j'ai vécues ou que j'ai imaginées. Je trouve que c'est un exercice formidable, qui vous donne une liberté incroyable et qui vous rapproche des gens, parce qu'on écrit pour des gens.
Juste avant l'été est sortie aux éditions Paul Sen La fille du grand hiver, qui se passe au Groenland, avec une figure féminine aussi, qui est une figure réelle ou romanesque ?
Alors, parfaitement réelle. Arnarlunguak, si je prononce très mal l'inuit. C'est une femme qui vivait au début du XXe siècle, dans le grand nord du Groenland, qui était une femme de chasseur, qui aurait dû rester femme de chasseur, rien connaître d'autre, et qui, grâce à son intelligence et à sa volonté, et à la rencontre fortuite avec Rasmussen, l'explorateur, va avoir une vie tout à fait incroyable, puisqu'elle va l'accompagner dans des expéditions. Non seulement elle va l'accompagner, pas seulement pour coudre les vêtements et faire la nourriture, mais pour faire un vrai travail d'ethnographie à ses côtés. Et donc, c'est une magnifique
C'est une grande figure groenlandaise aujourd'hui, ou pas ?
Elle est très connue au Groenland, oui, c'est une des grandes figures groenlandaises. Ils n'en ont pas tant que ça. Il y a des places à son nom, des timbres à son nom, des poèmes à son nom, et c'est une personnalité qui est très connue des Groenlandais.
La question des peuples autochtones, puisque c'est aussi de ça dont il s'agit, est-ce que vous avez le sentiment que ces peuples du Grand Nord, par exemple aujourd'hui, se font mieux entendre, ou rien au fond n'a changé, et qu'il y a toujours un esprit colonisateur au fond sur ces territoires aussi ?
Alors, un peu des deux. Je pense que quand même, ils se font mieux entendre, d'abord parce qu'eux-mêmes se sont structurés. Ils ont aussi des gens qui sont entre eux, ils sont capables de parler des sujets, ils sont capables de se positionner, d'aller dans des instances internationales, de défendre des points de vue. Donc ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, il reste toujours un tout petit peu quand même de côté un peu seconde zone, quoi. Hein. Mmh. C'est un peu le brave chasseur inuit, quoi. Et je pense que c'est un peu très dommage, parce que ils nous apprennent quelque chose de la relation avec la nature. Eux, ils ont gardé quand même cette relation, cette proximité, même si aujourd'hui ils vivent dans des maisons comme nous, ils ont des ordinateurs et tout. Mais quand même, ils ont cette proximité, ce regard qui aujourd'hui nous manque beaucoup et qu'on a oublié. Et je trouve qu'il y a des choses quand même à apprendre encore à leur contact.
Et la menace américaine qui pèse depuis 150 ans quand même sur le Groenland, parce que ça date pas de Donald Trump, comment c'est vécu là-bas sur place ?
Je pense que les Groenlandais, ils ont envie de rester Groenlandais. Et ils ont bien raison. Donc là, évidemment, c'est très exacerbé. Ils se sentent pas non plus forcément très danois, pourtant ils font partie du Danemark. Je crois qu'ils ont envie de prendre leurs affaires en main, et c'est compliqué, parce que... Parce que pour prendre leurs affaires en main, il faut qu'ils puissent avoir une indépendance économique. Et la grande question qui se pose aujourd'hui chez eux, c'est comment ? Est-ce qu'on autorise les Chinois à ouvrir des mines ? Est-ce qu'on fait du tourisme ? Est-ce qu'on trouve... Comment est-ce qu'on fait pour que le peuple groenlandais puisse vivre sur son territoire et de son territoire d'une manière apaisée qui leur permette un jour d'être un vrai pays ?
Bon, un petit coup. Dernière question. Dans Une bouteille à la mer, donc cette bande dessinée Isabelle Autissier, il y a une photo, celle d'un ours blanc, qui pourrait d'ailleurs être un ours du Groenland, non ?
Oui, celui-là, il est du Spielberg, mais...
Pourquoi vous avez voulu absolument, avec Zelba, mettre cette photo d'ours blanc ?
D'abord parce que c'est un magnifique voyage que j'ai fait en compagnie de Vincent Munier, le grand photographe.
Ouais.
Et c'était magnifique parce que Vincent, c'est un naturaliste, il connaît la nature à merveille. Et vraiment, c'était beau ces moments-là, parce que l'ours était sur le rivage, en train de manger une espèce de charogne de baleine. Et nous, on était dans notre petite annexe du bateau, pour se rapprocher un peu. Et on était là pendant des heures et des heures. Et simplement, on attendait que l'ours soit dans la position que Vincent voulait pour le photographier. Et donc, il y avait tout ce respect aussi, toute cette connaissance de la vie animale, de comment il se comporte. Et pour moi, c'était vraiment un souvenir magnifique. J'ai dit à Vincent, écoute, est-ce que tu veux bien qu'on prenne une de ces photos et qu'on la mette dans le livre, parce que ça m'importe beaucoup.
C'est la photo de la BD. Et on terminera avec cette image d'ours blanc. Je renvoie donc sur Une bouteille à la mer, ce voyage scientifique, et puis aussi dans votre vie, dans votre parcours, Isabelle Autissier, en compagnie de Zelba, la dessinatrice. C'est chez Futuropolis et Stock. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci Mathieu.
Vous étiez notre invité au carré. À bientôt.